positive.
Photographie, sculpture,
peinture,
dessin.
Expositive pour vous donner à voir.
Bonjour et bienvenue dans Expositive. Écoutez voir. Expositive, c'est l'émission qui vous emmène à la découverte de l'univers d'un ou une artiste à travers ses propres mots. Aujourd'hui, un entretien réalisé lors d'une résidence accueillie par l'association Trapèze à Saint-Jean-d'Angély. Je laisse l'artiste se présenter.
Je suis Félix Gazitani, je suis plasticienne et chercheuse. D'ici quelques semaines, je vais démarrer un doctorat en recherche-création à la Villa Arson.
Aujourd'hui, on se rencontre dans le cadre d'une résidence de création qui est aussi un préalable à une exposition qui, cette fois, se fait dans un cadre collectif.
Oui, pour lequel on a travaillé ensemble avec ma chère Roxane Maillet. Et on est venu représenter une collective dont on fait partie avec Roxane, qui est Bye Bye Binary, voilà, qui est plutôt une collective de recherche graphique et typographique, d'activisme même typographique, je pense qu'on pourrait dire, dans laquelle on s'attache à essayer d'explorer ce que peut la typographie pour l'expression des genres et de leur continuum ou leur transgression à l'intérieur du langage lui-même.
Un des projets les plus connus, je pense, de Bye Bye Binary, c'est la typothèque. Donc, c'est un travail de recensement des typographies qui permettent d'écrire un français démasculinisé. C'est pas juste catalogué, le catalogue est accessible.
Et en fait, surtout le cœur du travail autour de la typothèque, c'est fabriquer la possibilité technique d'utiliser les fontes sans avoir à le faire en remplaçant manuellement telle lettre par telle lettre. Et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est que, par exemple, plutôt que d'utiliser le point médian et de fabriquer une séparation à l'intérieur d'un mot, il y a plein de typographes à l'intérieur de BBB et au-delà de BBB qui se sont fait chier à dessiner des signes qui fabriquent des fusions entre un X, un S et un E, entre un WL et un E, entre un I, un T et un E, pour pouvoir, à l'intérieur du même mot, non seulement faire apparaître une terminaison masculine, une terminaison féminine, mais poser là que le passage du féminin au masculin peut se faire dans plein de conditions esthétiques, et ce qui est peut-être déjà en train de nous parler d'une autre manière de penser les genres au-delà du binarisme. Le but du jeu pour nous, c'était de faire en sorte que tous ces glyphes que nous avons dessinés avec amour pendant des années, ce soit un truc qui soit accessible au plus grand nombre. Et donc que on puisse faire autrement que d'ouvrir un logiciel de dessin expert ou de mise en page expert comme Illustrator ou InDesign et faire le remplacement à la main, ce qui est un truc dingue. Donc il fallait vraiment qu'on arrive à trouver le moyen de faire en sorte que tu es en train de taper ton texte et tu peux appeler ce remplacement. Et ça, ça a été vraiment le travail autour du CUNY, Queer Unicode Initiative, qui est une manière d'encoder à partir de la grille d'Unicode nos nouveaux glyphes pour qu'ils puissent être coulables tout simplement dans un texte sans que ce soit très compliqué.
Donc par exemple, si on a déjà rédigé un texte et qu'on fait tout sélectionner et changer la police et on a installé une police qu'on a téléchargée, ça va marcher tout seul?
À condition que dans ton texte, tu aies déjà utilisé le point médian. Et là où la team CUNY, ils ont été. Elles ont aussi résolu un problème de base qui est genre, d'accord, mais moi, je ne sais pas faire un point médian. Ben, en fait, elles ont résolu ce problème en disant, bah, c'est pas grave, on va même faire une syntaxe qui appelle un point médian. Comme ça, tu n'auras même pas à te demander comment tu le fais. Si tu tapes à la suite deux points, la syntaxe CUNY te permet d'appeler un point médian. Déjà. Et si en plus tu utilises une fonte dans laquelle il y a la possibilité de la substitution de ta flexion inclusive avec le point médian, et ben en plus tu auras un glyphe non binaire qui va apparaître tout seul comme un grand.
Il y a aussi des formes d'expression qui vont du côté artistique. Enfin, il y a de la création qui se fait aussi plus ou moins collectivement.
Bah, c'est par exemple le cas du workshop qu'on est en train de faire avec Roxane à l'invitation de Trapèze. Et oui, d'ailleurs, c'est même assez intéressant parce que c'est pas si souvent qu'on travaille dans ce genre de conditions. On essaie de faire en sorte de répondre aux invitations au strict minimum à deux, mais idéalement à trois, pour éviter la personnalisation de la collective qui, en fait, nous paraît ni réelle, ni même politiquement, idéologiquement, un truc désirable. Tout simplement parce qu'en fait, on ne croit pas à l'autorat, à la tutorialité, au génie individuel et ce genre de trucs, en fait. Et du coup, l'éloignement géographique fait qu'on travaille vachement par couches successives, presque comme un truc marabout de ficelle, quoi. C'est genre, bon, bah, OK, on a tant de budget pour faire ça. Ça veut dire qu'on peut décemment participer à 3, 4, 5, plus. Et bon, bah, je commence à faire un truc, et puis dans 48 heures, je t'envoie le fichier. Et paf, 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 paf. C'est pas systématique, mais quand on travaille sur des pièces qui sont plutôt des pièces produites pour le champ des arts plastiques, on a plutôt tendance à travailler comme ça. C'est assez marrant. Finalement, en étant dans la même pièce pendant 5 jours avec Roxane, finalement, c'est aussi comme ça qu'on a travaillé. Donc, c'est assez intéressant, quoi. Ça crée de la méthodologie.
Lors de chaque entretien, je demande à l'artiste de choisir sa pause musicale. Le choix de Félix Casitani s'est porté sur Cake des B-52s. C'était Cake par les B-52s, le choix musical de Félix Casitani, qu'on retrouve tout de suite.
Est-ce que ces moments de travail avec la collective, c'est aussi des choses qui sont nourrissantes pour une démarche plus personnelle ?
Il y a plein de niveaux. Moi, je sais que personnellement, ça me nourrit graphiquement beaucoup. Moi, je suis pas designer graphique ou alors seulement sur un mode amateur. C'est une pratique qui m'intéresse à plein d'endroits et c'est toujours super intéressant de pouvoir bénéficier de la technicité de gens qui sont experts. Et aussi le fait qu'il y a quand même un bon noyau dur de personnes qui sont assez jeunes, qui ont entre 25 et 30 ans. Pour moi, qui en ai 10 de plus, largement, bah, c'est super intéressant de pouvoir avoir accès de façon aussi directe et aussi fine à qu'est-ce que des gens de 27 ans regardent, quoi. Qu'est-ce que des designers graphiques super pointus de 27 ans regardent et comment ils travaillent. C'est passionnant.
Cette pratique collective, elle a une place particulière dans un travail de recherche plus personnel.
En fait, ce qui m'intéresse dans ma pratique personnelle et individuelle, poursuit quand même un travail qui est un travail de recherche. Alors qui est un travail de recherche par la forme, mais qui est quand même un travail qui a une vocation de trouver des points d'appui scientifiques, en fait. Ça reste un travail de recherche-création. Enfin, en tout cas, il est identifié comme tel. Je le mène en tant que plasticienne, mais j'ai réussi à l'inscrire à l'intérieur du cadre d'un doctorat. Donc, je dois trouver mes bases de scientificité. Et si je reste plus ou moins à l'intérieur du cadre normal de la scientificité moderne, la question de la réfutabilité ou de la reproductibilité, c'est des questions importantes. C'est des critères de validation. Forcément, c'est un peu problématique pour les plasticiens. C'est toujours un peu bizarre de dire quelle est la place de la vérité ou de la réfutabilité dans l'art. Mais par contre, une chose qui m'intéresse, c'est de solliciter les publics pour me faire un peu sortir de mes cadres d'interprétation. Moi, je travaille par édition de documentaire. C'est-à-dire que je réunis un corpus qui ne s'arrête jamais. Et puis, je me fais des espèces d'étapes de lecture qui sont en fait des installations. Et donc, j'édite comme ça par l'installation. J'édite en continu mon corpus. Alors, par l'installation, mais aussi par l'édition. Je produis beaucoup d'éditions qui sont des étapes de travail pour moi ou des étapes de lecture. Qui prennent la forme de petits fanzines, de petits bouquins, etc., etc. Et un truc que j'essaie de mettre en place dès que j'en ai l'opportunité, c'est de proposer au public d'éditorialiser ma matière pour pouvoir faire exister d'autres regards que le mien sur mon matériau. Parce que la question, c'est celle aussi de la lecture. Moi, je produis une lecture particulière, elle est située. Moi, je suis une personne queer, afab, avec une centralité masculine. J'ai une sympathie pour le végétarianisme, mais je ne pratique pas moi-même. Et pourtant, j'en comprends les enjeux politiques. Donc tout ça, ça produit une lecture sur mon corpus qui touche aux cultures de table. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre comment est-ce que les autres perçoivent cet ensemble. Et du coup, la partie collective dans mon travail, elle est plutôt là, de solliciter des publics. Et pas forcément sur un mode très actif, hein. Ça peut être là où on est en train de regarder la photo d'une installation que j'ai fait au Musée d'art contemporain de Lyon. Il y a un accrochage qui est assez proliférant sur les murs, avec beaucoup d'images qui sont encadrées les unes à côté des autres, avec des formats très différents. Il y a des choses qui sont des affiches, il y a des choses qui sont presque comme des miniatures. Tout ça dialogue, plus ou moins bien d'ailleurs, hein. Il y a plusieurs conversations qui sont en train de s'engager en même temps. Et puis, dans cette installation, il y a une grande table qui est dressée avec des liasses de documents. Certains des documents sont déjà présents sur les murs, certains autres sont des documents qui font partie de mon corpus, mais qui ne sont pas des artefacts accrochés. Donc l'idée, c'est aussi de produire une espèce de comme ça, de prolongation documentaire continue. Et puis surtout, là, au bout, on voit qu'il y a une perforatrice et des petites relieuses d'archives. C'est une espèce d'invitation implicite à fabriquer son propre fanzine. Il y a un petit fanzine qui est déposé sur une table qui est presque un peu comme le mode d'emploi, pour un peu laisser entendre aux gens. Vous pouvez faire ça, si vous voulez. Et c'est assez intéressant, parce que moi, ça me permet ensuite de un peu regarder par-dessus l'épaule des gens, quels documents ils prennent, dans quel ordre ils les mettent, et quel nouveau récit ça crée. Parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'éditorialisation. Enfin, c'est l'editing au sens du montage, quoi. C'est, si je mets ça à côté de ça, c'est quoi l'implicite ? Si je mets ça à côté de ça, c'est quoi l'implicite ? Et ça m'intéresse beaucoup. À l'heure actuelle, dans mon travail, la partie collective, elle est surtout à cet endroit-là. J'ai besoin du regard des autres, de le laisser rentrer par moment, de pouvoir laisser travailler mon propre regard et puis repartir, ne pas me laisser indemne. C'est ça qui m'intéresse, je pense, pour le moment dans mon travail.
Merci beaucoup.
Ben, je t'en prie.
J'espère que cet entretien vous aura donné envie de découvrir plus avant l'univers de Félix Casitani. Pour en savoir plus, vous pouvez patienter jusqu'à une prochaine édition d'Expositif qui lui sera à nouveau dédiée. Et sans attendre, vous pouvez déjà rechercher son nom sur Internet où beaucoup de pages lui sont dédiées et suivre sa page Instagram FLXKZTN. Et si vous avez l'occasion de venir à Saint-Jean-d'Angély au mois de novembre, vous pourrez donc découvrir une exposition de la collective Bye Bye Binary présentée en début d'émission, parmi lesquelles une œuvre inédite, un triptyque qui a donc été conçu durant une résidence accueillie par l'association Trapèze. Cette même association Trapèze est donc organisatrice de l'événement intitulé « Vive la langue » au sein duquel s'inscrit l'exposition de Bye Bye Binary et cette production d'œuvres inédites dédiée à Herculine Barbin, personnage historique local. Plusieurs membres de Bye Bye Binary seront présentes à l'occasion du vernissage qui se déroule le soir du jeudi 7 novembre. Certaines d'entre elles donneront un atelier à la Microfolie de Saint-Jean-d'Angély, qui fait partie des lieux qui accueillent l'exposition. Ça se déroulera l'après-midi du samedi 9 novembre. Pour plus d'informations, vous pouvez suivre l'association Trapèze sur les réseaux sociaux, sur Instagram trapèze-asso et sur Facebook trapèze-asso, ou retrouver les informations dans la communication municipale, puisque la Microfolie comme la médiathèque municipale sont associées à cet événement. Si vous n'avez pas eu le temps de noter sous ces informations, si vous avez raté le début de cette émission, elle est peut-être encore diffusée ou rediffusée sur l'une des radios associatives qui nous soutiennent. Pour retrouver tous les jours et heures de diffusion, ainsi qu'une publication dédiée à la présente édition, rendez-vous sur le www.facebook.com/expositive. Expositive est une émission aujourd'hui entièrement produite par Yann Sirota. Elle a été créée à l'origine avec la complicité de Clara Giannichini, qui reste l'autrice de son générique. Un générique qui doit beaucoup au groupe Bal en Chantier et au morceau Gotan Vals pour la musique. A bientôt pour une prochaine édition d'Expositive.
Expositive.
Photographie, sculpture,
peinture,
dessin.
Expositive pour vous donner à voir.